au journal de la transmission. Bienvenue pour des rencontres toujours merveilleuses. Et en voilà une, coiffeuse de rue, Hélène Boiron témoigne. Convertie au catholicisme après des détours par le bouddhisme et la méditation transcendantale, elle met son talent de coiffeuse au service des sans-abri. Son exemple fait école, la coiffure du cœur effectue des maraudes dans 17 villes de France. Cette femme énergique est passée par pas mal d'épreuves. Sa soif de servir Dieu à travers les plus fragiles est contagieuse. Hélène Boiron, bonjour.
Bonjour Valérie.
Merci. Merci beaucoup d'avoir momentanément quitté la douceur du Var pour venir témoigner au micro de Radio Courtoisie. Merci. Pour que nos auditeurs fassent connaissance avec vous, dites-nous celle que vous avez été jusqu'à un jour où vous avez entendu le Christ dans votre voiture. Racontez-nous.
Alors, je raconte justement dans ce livre, hein, Coiffeuse, le choc d'une rencontre à la coiffure du cœur. D'abord, je voulais vous demander, est-ce que, on aspire tous à être heureux, à trouver le bonheur? Et bien moi, je vais donner dans ce livre, et là dans ce que l'on va pouvoir échanger, comment j'ai trouvé les clés du bonheur, mes clés du bonheur. Et que le bonheur, on ne le trouve pas forcément où on va penser, peut-être en allant voir un concert ou en allant faire un voyage, je ne sais pas. Mais des fois, il peut se trouver en bas de chez soi, au coin de la rue ou au fond de la rue, comme moi je l'ai trouvé. Donc, la Hélène, pour revenir à votre question, Valérie, comment était-elle avant ce choc de cette rencontre dont on pourra parler? C'était une Hélène qui était un bon produit de ce monde. Souvent, je dis ça, qui aimait plaire, qui aimait tout ce qui brillait, qui aimait consommer, qui aimait acheter, voilà, et qui se cherchait. Je me suis quand même, jusqu'à cette, de la petite enfance, on va dire, à la chercher un besoin d'authenticité, et je me perdais. Donc, c'est vrai, j'ai pas pris les chemins les plus courts. Et donc, si je devais faire un petit schéma sur moi, c'était un peu la Betty Boop à talons aiguilles. Mmh. Hein, qui avec la beauté de la jeunesse, avec pas mal de choses que j'ai pu apprendre, et ben je m'en servais pour pouvoir arriver à mes fins. Et en fin de compte, je goûtais à tout ce qui pouvait être plaisir. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une grosse différence en fin de compte entre le plaisir et le bonheur. J'ai appris il y a pas longtemps que le bonheur était lié à l'hormone de la sérotonine, mmh. Hein, la sérénité et le lien social. Mmh. J'ai mis du temps pour le comprendre et pour le savoir. Contrairement avec le plaisir, plutôt lié à tout ce qui était addiction ou récompense. Et c'était bien ce que j'étais.
Alors, vous évoquez ce livre qui est extrêmement touchant, « Coiffeuse au grand cœur, du choc d'une rencontre à la coiffure du cœur » chez Salvator, que vous avez écrit avec Benjamin Coste,
oui.
Que vous vouliez que nous citions. Vous oui. avez travaillé ensemble pour oui. mettre en mots, oui. mettre en mots une vie.
Oui, tout à fait.
Voilà qui est difficile. C'est oui. difficile de repartir. Vous avez eu un chemin, vous le dites, vous êtes passé par des mmh. détours. Vous les racontez, ces détours?
Oui, quelques étapes d'un bébé pas programmé, mais aimé. d'une enfance, d'une gamine, on va dire, complètement paumée, maladroite. D'une adolescente révoltée. De cette jeune femme ensuite que j'ai été, on va dire, un peu disjonctée. De cette mère équilibrée, grâce à mes enfants, bien sûr, grâce mmh. à mon mari, j'ai trouvé un équilibre. Et puis à un moment donné, la maladie, l'épreuve de la maladie, le cancer, j'avais, comme j'adore la vie, j'ai eu la trouille de ma vie, on peut le dire, j'ai eu très très peur de partir. Et de ce moment de colère, de crise, dans la voiture, ça s'est passé, j'ai vraiment rencontré, alors il y en a qui vont dire, elle est perchée, elle est... Oui, je le suis, il n'y a pas de souci. En tous les cas, j'ai rencontré Dieu, personnellement, cet amour qui m'a vraiment bouleversée. Cet amour.
Vous rentriez en voiture, votre mari vous suivait dans une autre voiture.
Il était devant lui.
Il était devant.
D'une séance de radiothérapie.
Voilà. Et vous alliez mal.
Eh bien, j'étais mal dans mon être parce que je criais, je me revois encore en train de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? J'avais peur de... Voilà, je me rendais compte que je ne pouvais plus gérer ma vie. Je me rendais compte qu'elle pouvait m'échapper et j'avais peur. Et donc, je me suis mise à crier toute seule dans la voiture, à... voilà, à me révolter, sans savoir que je n'étais pas seule, que je lui parlais, mais ça venait tellement du fond des tripes que, eh bien oui, il a répondu par cette, on ne peut pas dire une décharge, parce que c'est un amour tellement intense que je n'avais jamais connu avant, et par cette auréole de, sur cette petite image, je dis ringarde, du Sacré-Cœur de Jésus, qu'avant je regardais comme un porte-bonheur, hein, qu'on met comme ça n'importe où. Non, non, cette auréole pour moi est venue me... Voilà, m'apporter cette lumière douce et intense. Et je savais qu'il me disait personnellement, je te donne mon cœur, je te donne mon amour. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais suffisamment pour que suite aussi après à une question que je lui ai posée, maintenant je comprends, je sais quand est-ce que je lui parle, hein, mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, avant de fermer les yeux et de m'endormir, où je ressassais des choses dans ma voiture pour infuser cet amour que j'avais reçu. Et je lui disais comme ça... mais tu n'avais pas d'autre moyen de te faire crucifier par amour. Mmh. Et là, c'était vivre. Ça a résonné dans toute ma tête. Là.
Vivre.
Vivre. Et là, je me suis levée, j'ai dit, mais je vais vivre. Tu vis. Mmh. Mmh. Voilà.
Vivre. C'était, là, c'était lui et c'était vous.
Voilà, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Je comprends. C'est pour ça que je m'en souviens très, très bien.
Ouais. Vous dites que lorsque vous entriez dans une église, vous trouviez assez révoltant de voir cet homme attaché par les pieds, par les mains, mort. Oui. Ça vous choquait?
Oui, c'était douloureux pour moi de voir ça. Je me disais, mais pourquoi ? Il y a tellement de belles statues où on le voit, le Christ roi, voilà. Mm. Pourquoi, là, moi, se crucifie ? Et pourtant, maintenant, voilà, je l'ai avec moi, je le porte, bien évidemment. Ouais. Mais je n'arrivais pas à comprendre la signification. Non. Et pour moi, ça me faisait mal, je n'aimais pas.
Vous avez parlé des détours que vous avez faits. Il y a cette parole, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas non plus mes voix. Vous avez employé des chemins tortueux. Est-ce que vous pouvez les raconter un petit peu, dans la mesure où vous souhaitez les dévoiler, mais vous en parlez beaucoup dans le livre, donc je pense que c'est assez naturel. Parce que je pense que nos auditeurs peuvent être actuellement sur ces chemins tortueux.
Oui, tout à fait. Je n'ai pas choisi le chemin le plus court, puisque ça a duré à peu près une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'on a soif, on a soif de réponse, on a soif de spiritualité, on a soif de bon sens. Et donc, on va chercher. Après, comme moi, je n'avais aucune éducation religieuse et que, on m'avait justement dit, écoute, Hélène, tu ne vas pas commencer à lire la Bible, voyons.
Ah oui, quelqu'un vous a dit, si tu veux te renseigner, commence surtout pas par la Bible.
Non, voilà, tu ne vas pas te noyer. Bon, du coup, je me suis dit, c'est vrai, ça a l'air gros, je ne comprends pas trop. Et donc, ça a été le New Age, parce que c'est facile, c'est des lectures faciles. Mais ça ne répondait pas. Moi, il me fallait du vrai, de toute manière. Ça a été dans le bouddhisme, parce que c'est très zen et que ça fait beaucoup de bien. Ça, je dois le dire, ça m'a permis d'ailleurs de connaître en effet beaucoup de spiritualité dans ce monde, de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y avait sur cette terre. L'hindouisme, les bras d'Amma. Voilà,
oui. Vous pouvez nous parler un peu d'Amma.
Amma, je serais incapable de vous dire qui elle est. Pour moi, c'est une bombe d'amour, comme une sainte. Qui vient d'Inde et c'est surtout un grand leader humanitaire qui apporte tout ce qu'elle peut pour aider les pays, pour aider les gens, voilà. Mm-hmm. Son contact, c'est ce fameux Darshan. Voilà, moi j'ai été en effet serrée dans ses bras.
Le
Darshan, c'est quand on vous serre dans les bras pour vous faire un gros
câlin. C'est un gros câlin.
Un gros câlin d'amour.
Voilà. Et vous l'avez vécu à Toulon.
Oui, elle venait au Zénith à ce moment-là et en gros c'était marqué « Ma religion, c'est l'amour ». Oh, je dis, ça me va bien, ça, moi.
Très bien. Tout va bien. Donc, vous avez patienté très longtemps pour avoir ce câlin. Hein, vous racontez d'ailleurs, c'est très drôle dans le livre. Comme vous êtes une impatiente, une assoiffée, fallait que ça vienne plus vite. Vous êtes allée prêter vos bras pour faire la vaisselle, pour pouvoir court-circuiter.
Pour feinter, bien évidemment, j'en suis pas fière. Mais oui, c'était moi, ça, avant. Hein. Comment pouvais-je faire pour pouvoir avoir ce que je voulais? Et c'était l'épreuve de la marmite.
Ouais.
Au début, j'étais pas très contente parce que je m'étais dit, tiens, pour pouvoir passer plus rapidement, il faut normalement marquer qu'on a fait tant d'heures de service. Eh bien, je vais venir de bonne heure et puis je vais me mettre à la vaisselle, pourquoi pas, et puis je vais voir. Donc le matin de bonne heure, il n'y a pas de vaisselle parce que personne n'a encore mangé. Donc du coup, je me retrouve dans cette cuisine où il n'y avait personne, mais il n'y avait qu'une personne qui était derrière un muret et je l'entendais râler et je la regarde et c'est une jeune femme qui était en train d'essayer de récurer une grosse marmite. C'était du lait
collé
de la veille, je pense, un truc comme ça. Et elle me regarde et elle me dit, toi là, tiens, viens, prends ma place. Je me suis dit, on va essayer, mais avec une simple éponge, je frotte, je tourne là. Et puis, je n'arrivais vraiment pas. Et je me disais, mais je vais rater l'heure, il y a tout le monde qui va arriver, je ne vais pas pouvoir pointer mes heures de service, je ne vais pas pouvoir passer plus vite dans les bras d'Ama, ça ne va pas, ça. Mais Ah, enfin, à ce moment-là, ouais. Je ne sais pas comment ça se passe. j'avais cette pensée au fur et à mesure que j'essayais de nettoyer, c'était ben, « nettoie bien ta crasse, Hélène.
Ouais.
Récure.
Ouais, » C'est pas une pensée qui vous est venue.
Ah, complètement.
Ouais.
Et quand j'ai compris, à ce moment-là, j'ai ouvert un tiroir, j'ai vu une espèce de vous savez, c'est scotch brique, là. Enfin,
ouais,
là,
ouais.
Là, j'ai pris et j'ai récuré la marmite sans problème. Et j'en ai même demandé une deuxième.
Ouais. Donc, une voilà, deuxième marmite,
c'était
hein.
L'épreuve
donne-moi
de la marmite.
Une autre.
Oui, donne-moi une autre. J'ai compris le message, là. Ouais. Celui-là, c'était assez important. Donc, ça m'a appris le service.
Ouais.
Parce que, voilà, c'est à fond dans le service. Après, ça a été donc une époque. Et puis,
vous êtes allée en Inde avec votre époux.
Oui, parce que de toute petite, j'ai toujours été attirée par tous ces pays. Hein,
ouais. Voilà. Et donc, ce sont des détours dans lesquels vous auriez pu rester, en fait. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur toute cette spiritualité ?
Elle est riche. Il y a la foi qui transpire. Je peux difficilement donner un nom. Pour moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas... mon chemin. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses, beaucoup de personnes, ces religions. Donc, c'était très riche. Et je ne regrette pas, en fin de compte. Ça me permet, quand je rencontre quelqu'un, je dis, oui, je sais comment tu penses. Parce que oui, voilà. Ok, je sais comment tu pries. Ok, voilà, ça, c'est même beau. Mais, en fin de compte, ça ne répondait pas à qui était ce Christ, Jésus. Voilà. Et je l'ai rencontré, en fin de compte, pas très loin de chez moi, hein, au Pont du Last, dans cette
Mais
fameuse
oui.
paroisse.
Vous dites, je suis partie au bout du monde, et finalement, c'est à côté de Toulon que j'ai... Enfin, c'est à Toulon même, d'ailleurs.
À Toulon même. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée, je vais vous dire, même l'impression que j'en ai eue, ça m'a fait rire. Après, je suis rentrée dans cette paroisse, et elle est dans des tons de saumon orange, quand vous rentrez. Et vous avez Jésus d'un côté et Marie de l'autre, et au fond, Saint-Joseph. Et quand je suis rentrée, je dis à Thierry, parce qu'on avait été attirés...
Donc Thierry, votre époux.
Voilà. Les portes étaient grandes ouvertes. C'était un dimanche matin. Je lui avais dit, bah, écoute, on va aller mettre un cierge. Voilà. Mais j'étais incapable d'écouter une messe. Je n'en avais jamais écouté une, d'ailleurs, avant. Hein. Puis d'ailleurs, rien que d'entendre le mot péché me faisait bondir. Bon. Et je lui dis, viens. Et puis, quand j'ai entendu cette chorale magnifique, au moment où je suis rentrée, j'ai dit, waouh, c'est orange. On se croirait en Inde. Parce que l'orange, c'est la couleur de l'Inde. Donc, vous voyez à quel point j'étais... voilà. Et puis, en fin de compte, là... il y avait l'homélie du Père, il y avait les textes donc, de l'Ancien Testament,
des évangiles.
Et chaque mot résonnait et me donnait une réponse. Ça y est. Pourtant, je n'avais jamais lu. Et je me suis dit, c'est là, en fin de compte. Là, j'ai toutes les réponses à toutes les questions que je me suis posées. Donc, on va pour sortir, je rase les murs, j'étais assez émue. Et Thierry me dit, écoute, Hélène, on revient la semaine prochaine, on verra si c'est aussi bien. C'est peut-être exceptionnel.
Oui, si ça se trouve, c'était aujourd'hui.
Voilà, on est bien tombés.
Ouais.
Et non, le dimanche d'après, c'était pareil, aussi bien. La chorale, le père, son homélie, tous les textes, tous les mots. Et là, je dis à Thierry, écoute, je ne vais pas arriver à sortir, mais si, on va y aller. Et le prêtre, avec son vêtement, là, il ouvrait en grand les bras, donc on pouvait difficilement passer derrière sans... donc,
à la sortie
il
de la
avait
messe.
Repéré les nouveaux paroissiens futurs. Et Thierry, avec la grande banane, lui dit, ben voilà, bonjour mon père. Et le père vient vers moi, et au moment où il me tend la main, bon, moi je voulais l'éviter, je voulais passer derrière parce que je voulais qu'on me laisse tranquille. Et la seule chose que j'ai pu lui dire, c'est pas bonjour, c'est faut me baptiser.
Ouais, c'est sorti tout seul.
Alors il m'a regardé, bien sûr, bien évidemment. Donc voilà, après, c'était un parcours où, on va dire, j'avais envie de rattraper le temps perdu. Il m'a donné rendez-vous, on a fait le parcours alpha, il y a eu des retraites, il y a eu une envie. D'ailleurs, un jour, il m'avait dit, mais Hélène, pourquoi vous voulez aller si vite ?
Ouais.
Vous êtes comme la personne de la 11e heure, vous inquiétez pas, vous aurez votre place. Mais en fin de compte, je lui disais, mais on ne court jamais assez vite pour aller vers lui.
Je comprends. Vous l'aviez entendu. Et puis, c'est votre tempérament. On voit
c'est
bien, vous êtes une femme assoiffée, pressée, sanguine.
Oui,
voilà.
Tout à fait, impulsive. Oui, voilà.
On y va.
Coléreuse même.
Ah non, ça, je ne peux pas le dire.
Mais je me retiens beaucoup, d'ailleurs. D'ailleurs, cette association m'a permis de beaucoup, pour calmer mes ardeurs. Quoi.
Alors, vous dites cette association, de qui parlez-vous ? Parce que voilà, vous avez fait ce parcours de conversion, vous avez été baptisée. baptisés. Il y a des pages magnifiques et les témoignages de vos fils, vos deux fils, qui nous donnent, eux, leur regard sur le baptême de leur mère, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Ouais. Et puis, bien, tout cela vous a peut-être ouverte aux autres d'une autre manière ?
L'association ?
Votre conversion vous a-t-elle amené à fonder l'association Coiffeuse au Grand Cœur ?
Mon regard a changé et du coup, le monde a changé pour moi. Hein, donc, je n'étais plus centrée, cette Hélène centrée sur elle, à la recherche de quête de plaisir et tout. Mais là, j'avais trouvé, en fin de compte, pour moi, le bon sens. Mon sens, le sens que je cherchais, voilà. Et donc, j'avais envie, je ne savais pas comment j'allais faire. Je ne me posais pas tant de questions que ça. Quand j'étais baptisée, donc en 2017, donc 10 ans après la rencontre, donc première rencontre, le plus beau jour de ma vie, deuxième, le baptême, deuxième plus beau jour de ma vie, bien évidemment, eh bien, j'ai eu envie d'être utile. Je ne savais pas comment. Donc, avec mon mari, on est allé pour donner à manger. Enfin, on s'est
dans des maraudes, voilà, des choses comme ça.
Ouais. Distribuer des repas le soir. Mais moi, j'étais frustrée. Et j'avais dit, mais moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'échanger. Vous savez, quand vous avez les personnes qui viennent chercher à manger et puis qui baissent les yeux et qui repartent aussi vite, moi, c'est pas possible, ça.
Dans les maraudes, c'est quand même souvent comme ça. Moi, j'en ai fait aussi. C'est une rencontre fugace. On retrouve un peu toujours les mêmes.
Oui.
Ça devient presque... Il y a presque des automatismes.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est vrai, quand on vient pour donner...
voilà, vous êtes frustrée parce qu'il y a un manque. Vous ne pouvez pas donner ce que vous voulez. Et tout ce que j'avais reçu, ce trop plein d'amour dans ma voiture, eh ben, j'ai toujours eu besoin de pouvoir le rendre, mais je ne savais pas comment. Étant coiffeuse, en fin de compte, ça coulait de source. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai dit que la coiffure est un métier prédestiné au service, mais je ne savais pas à quel point. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que d'aller servir, j'ai trouvé la joie de servir. Et de cette joie de servir, j'ai compris qu'avec les rencontres, avec ce cœur à cœur avec ces personnes dans la rue, j'ai compris que c'était là les clés du bonheur. C'est une grande richesse, ce cœur à cœur, ces relations. On enlève les masques, on a à la minute lingette pour enlever les petits cheveux, vous savez, parce qu'on n'a pas des bacs pour nettoyer après une tête. Mais c'est la minute caresse. Et moi, je revois cette jeune femme. Je me souviens, c'était à Villefranche, une interview d'une journaliste qui lui avait dit « Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir... » Et elle lui a dit... Avec cette caresse, j'ai eu l'impression que c'était comme la caresse de ma maman. Oh, ça m'a bouleversée. Ouais, je ne me rendais pas compte de la beauté de ces gestes.
La portée
de certains gestes, vous voyez.
Parce qu'en fait, expliquons à nos auditeurs, avec l'association La Coiffure du Cœur, qui maintenant existe dans 17 villes, vous vous rendez compte, quand il y a de belles choses, elles se répandent. Eh bien, vous faites vous aussi vos maraudes. Ça se passe la nuit.
Oui, c'est le soir.
Donc, c'est à la lumière des lampadaires. C'est avec, au départ, une prise électrique trouvée même dans des endroits incroyables.
Oui, tout à fait.
Et vous coiffez les personnes sans lavage, puisque vous n'avez pas de bac.
Mais non, on les fait dans l'état où ils sont. Alors, il y en a qui vont aussi, attention, les personnes qui vivent aussi dans la rue, vont dans des centres d'accueil et vont se laver.
Et vous dites qu'ils font attention. D'arriver justement avec des cheveux propres.
Bien évidemment, pour eux c'est très important. Tout à fait. Hein, ils sont très, très respectueux de nous et puis ils ont envie de retrouver cette estime, autrement ils ne viendraient pas. Hein.
Mais oui.
C'est pas la peine.
Vous faites aussi la barbe.
La barbe, oui, on a des barbeurs aussi et c'est vrai que voilà, ça vous transforme. Et pourquoi le soir ? Parce que c'est le soir que ces personnes... Souvent, je dis, quand les volets sont fermés, ils sont encore plus isolés. Et l'isolement, je ne sais plus si c'était le pape Benoît, mais bon, l'isolement est la source de toutes les pauvretés. Quelque chose comme ça. Mais c'est vrai. Et ces personnes-là, écoutez, elles sont dans une grande détresse. Et donc, la coiffure est un peu un support pour pouvoir aller à la rencontre, pour pouvoir apporter ces échanges, pour pouvoir apporter cet amour. On nous appelle dans certaines villes la coiffure du cœur, la coiffure du bonheur.
Du bonheur.
Mais j'adore, moi,
Je comprends. Et en plus, ce sont des coiffeurs bénévoles qui ont leur vie professionnelle dans la journée et qui prennent du temps la nuit.
Oui.
Pourquoi ils prennent ce temps, finalement ?
Eh bien, écoutez, hier, on était à la maraude d'Annecy.
Ouais.
C'était amusant parce que, donc, il n'y a pas longtemps qu'on a ouvert cette antenne. Et j'écoutais, donc... Mimi, on l'appelle Mimi, qui disait « Mais moi, j'ai travaillé, mais j'attendais que le soir pour pouvoir me retrouver là. » Parce que ce n'est pas les mêmes contacts. Et pourtant, elle a un super salon. Elle me disait « Mais j'avais qu'une envie, c'était de me retrouver dans la rue et coiffée. » Parce qu'elle se rend compte petit à petit, moi j'ai mis aussi du temps, que de donner de son temps. Hein, c'est vrai, on a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais ça nous procure du bonheur. Et elle avait besoin de ce contact-là, gratuit, sans avoir le rapport de l'argent. Mmh. Et c'est ça qui est beau.
C'est une des clés, et puis c'est du temps. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez cette lingette, etc. C'est aussi du toucher physique.
Du toucher, c'est énorme.
C'est un langage d'amour.
C'est un langage d'amour. Et vous savez, pareil, hein, on a souvent des interviews, on avait, un jour, il y avait une personne qui disait, ou je pourrais même demander aux auditeurs, si vous êtes d'accord, Valérie, ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas été chez le coiffeur? Ben Pauline, qui vit dans un parking, nous disait la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un salon, j'avais 16 ans. J'en ai 68. Mm-hmm. Ça fait plus de 50 ans.
Ouais.
Ben, vous voyez, la coiffure du cœur, elle est là pour apporter ses services en équipe le soir à toutes ces personnes qui sont perdues, violentées, paumées, handicapées, qui n'oseront plus mettre les pieds dans, franchir les portes d'un salon.
Ils se regardent peu, finalement.
Et qui ne se regardent pas. Et moi, ce qui m'a le plus, marqué, c'était, ces femmes. Des femmes qui ne voulaient plus paraître femmes, qui demandaient à ce qu'on les rase pour qu'elles ressemblent à des hommes, pour qu'elles ne risquent rien, pour qu'on leur fiche la paix, qu'ils s'en les disent. Ça, c'est horrible. Ou alors de ces jeunes femmes qui découvrent qu'elles peuvent être encore... il y a quelque chose de magnifique en elles. Et quand vous dites à une femme mais que tu es belle, écoutez, vous avez les yeux qui pétillent. Mmh. Vous leur redonnez de l'espoir, de l'espérance, de quelque chose.
De la dignité.
De la
aussi,
dignité.
Oui. Elles sont dignes d'être regardées.
Voilà. On a mis en place une petite série qui commence et s'appelle « Parole de rue » pour leur donner la parole. Et il y avait cette jeune femme, Élodie, sur hier... On peut dire qu'elle était jeune femme. Et elle, on disait, mais c'était difficile de lui poser des questions. Mais elle disait à un moment donné, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont ou qui vont se plaindre souvent? Et alors, elle disait avec ces mots, eh bien, qu'ils viennent faire un stage de SDF. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir un toit. Mmh. Ils ne se rendent pas compte que le moindre centime, c'est de l'or. Et elle s'est retrouvée là parce qu'elle a eu un gros problème quand elle était jeune et elle a fait un stage en psychiatrie et elle ne sait pas trop comment s'en sortir. Vous voyez ? Et bien ça vous secoue. Et bien la coiffure du cœur, et bien on est là pour apporter ce qu'on sait faire. Je te donne mon cœur, je te donne mon amour. Ben, on est là pour ça, sans se poser plus de questions. Je vais te donner mon amour.
Et votre logo,
le cœur sur la main. Et bien écoutez,
décrivez-le nous.
Le logo, écoutez, étant donné que dans la voiture, c'est quand même le Sacré-Cœur de Jésus qui m'a parlé, comment le mettre en logo? Alors, j'ai mis une tête, avec une petite touffe de cheveux, avec un sourire de côté, ce qui montre la personne de la rue, quoi. Mmh. Et puis, une paire de ciseaux et un cœur sur la main, parce que c'est le cœur de Jésus qui est sur la main. Je te donne mon cœur, c'est ce message que j'ai eu.
Ce que vous faites, c'est vous perpétuer une tradition de toujours, hein, du Moyen-Âge, de toujours. Et lorsque je viens en aide aux plus petits, à celui qui est seul, à celui qui est dans la rue, mais c'est le Christ que je sers.
Mais bien évidemment.
Et vous le sentez, ça?
Ah, mais complètement. Enfin, pour moi, je suis habitée par lui. Hein. Et d'ailleurs, avant chaque maraude, bien sûr que je fais ma prière intérieure et je lui demande d'être là. Parce que, c'est vrai que... On ne sait jamais qui on va rencontrer.
On ne sait pas ce qui va se passer. Pas, ça peut être un drame aussi.
Ça peut être un drame aussi. J'en ai vu. Si vous voulez, je peux vous parler d'une anecdote moi qui m'a vraiment. Je vais essayer de mettre les mots les plus cool.
Allez-y.
Qu'on peut. C'était après une maraude. J'étais avec mon ami Laure, qui me suit. Et il était bien 22h, un truc comme ça. On avait fini. Mais bon, il nous restait des gâteaux. Il nous restait qu'on allait distribuer. On est passé derrière le commissariat. Et on savait qu'il y avait un coin avec une sortie ou une entrée de d'immeuble. Des fois, il y en a qui se mettent là. Et donc, il y avait, il y avait deux personnes, dont un homme et une femme. Lui, il est parti quand il nous a vu arriver. Il s'est dit, bon, allez, je m'en vais, qu'est-ce qu'elle vient de faire, tout ça. Et nous, on voit cette femme qui n'était pas dans un état normal. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle avait pris, mais et elle était comme ça, couchée. Elle avait, les jambes avec des hématomes entre les cuisses. Elle avait les pieds complètement boursouflés, avec des chaussettes collées sur elle. Et je vois Laure qui commence à s'enlever ses chaussettes pour pouvoir lui donner. Je lui dis, laisse, Laure, tu ne pourras pas, c'est collé, on n'y arrivera pas, on appelle les pompiers.
Pour pas lui faire mal, en fait.
Voilà.
Aussi.
On appelle les pompiers, qui les pompiers, ils sont obligés d'avoir l'accord de la personne pour pouvoir la prendre. Et qui nous ont dit non, on ne peut pas. En plus, ils lui demandaient, elle ne faisait que de dire non, non, non. Ils sont partis.
Ah oui.
Et nous, on s'est retrouvés avec Laure, mais moi, je me suis mis à hurler. Mais c'était un cri d'impuissance, de colère, de voir qu'une femme pouvait en arriver là, quoi. Et je me disais, mais mon Dieu, mais ce monde. Voilà, c'était une révolte. Donc ça, ça m'est resté longtemps. Et puis autrement, après, on va rencontrer des moments où ça va être au contraire amusant, parce que la dernière fois, on était à une vingtaine à se retrouver sous notre barnum, parce qu'il n'y a plus tellement que c'était la mousson, on aurait pu croire. On avait d'un côté une association qui donnait des crêpes juste avant la pluie, on avait les petits frères qui donnaient de la soupe, il a plus d'un seul coup, on s'est tous retrouvés sous le barnum à touche-touche, on va dire, nous on coiffait, il y avait tous les bénéficiaires qui étaient là, il y avait les crêpes, il y avait la soupe et il y avait nous, et on s'est mis à éclater de rire, parce que c'était un vrai pôle de solidarité.
Mais c'est la vie, c'est magnifique. Hélène Boiron, je redonne à nos auditeurs les références de votre livre. Coiffeuse au grand cœur, du choc d'une rencontre, la rencontre avec le Christ, à la coiffure du cœur chez Salvator, en collaboration avec Benjamin Coste. Ce livre vient de sortir et, chers amis, je vous le conseille parce que j'ai envie de dire, c'est une bombe d'amour là aussi. Et puis ça nous remue. Hélène, je voudrais vous demander, pour nos auditeurs qui vous entendent, qui disent, moi aussi j'aimerais bien mettre mes mains, mon talent au service de ceux qui n'ont rien. Vous qui connaissez bien la rue, la nuit, la pauvreté, donnez-nous des idées. Où est-ce qu'on peut aller donner son temps comme ça? Qu'est-ce qui manque?
Oui, de donner son temps. Eh bien, il existe quand même beaucoup d'associations, qui distribuent des repas ou des vêtements. Il y a la coiffure du cœur. N'hésitez pas à venir nous retrouver, de toute manière. Et puis, de donner de son temps, on a tous des talents. On sait tous faire quelque chose. Nous, c'est la coiffure, mais vous, c'est peut-être, vous savez faire des gâteaux. Eh bien, vous pouvez aller donner des gâteaux à des personnes que vous voyez qui sont dans la pauvreté. Vous êtes comptable ou professeur, vous pouvez aller aider des personnes à les remettre à niveau. On peut tous, en fin de compte, apporter notre talent, nos services à l'autre. On ne se rend pas compte.
On peut le faire à travers une association, le faire en direct, comme vous l'avez fait au départ, en fait, Hélène. Ça implique de surmonter sa peur.
Je dis oser. Voilà, ça c'est un verbe. Je dis oser sortir de votre confort et aller chercher les associations qui existent. Oser venir, ne restez pas dans votre coin. Il existe plein de possibilités pour apporter ce que vous savez faire. Et vous savez faire plein de choses, je vous assure.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre couple? Donc Thierry, votre mari, depuis combien d'années?
Maintenant, écoutez, on s'est connus très très jeune, ça fait plus de 40 ans.
Il vous a accompagné, lui il était baptisé.
Oui.
Et il vous a accompagné dans toutes ces quêtes, un peu partout, par les spiritualités
toujours suivi,
pas lâché. Même si vous avez eu des hauts
bien
et des
sûr,
bas, vous le racontez.
Des tsunamis, bien sûr.
Des tsunamis, comme beaucoup de couples. Et là, maintenant, vous vous sentez plus à l'unisson. Qu'est-ce que ça change, en fait?
Alors, merci de me poser cette question. Parce que vous voyez, quand on s'est connus, donc très très jeunes, on nous appelait déjà les amoureux. On nous a toujours appelés les amoureux. Mais on était deux. Et maintenant, je dis, on est trois. On nous appelle toujours les amoureux. Mais maintenant qu'il y a le Christ, je dis, plus j'aime Jésus, plus j'aime Thierry, plus j'aime Thierry, plus j'aime Jésus. Et c'est ce qui nous permet de passer les épreuves, ce qui nous permet de passer des fois des situations pas faciles. On s'en réfère toujours. Et c'est ce qui aide vraiment notre couple. J'en suis persuadée que là, oui.
C'est là aussi, vous donnez un très très beau témoignage dans le livre. En plus, vous le faites, nos auditeurs entendent votre ton, vous le faites avec simplicité, vous le faites avec joie. Benjamin Coste a parfaitement su vous accompagner dans cette écriture. Quelle est l'origine du livre? Parce que les choses, on les vit, mais après, les écrire, c'est une autre étape. Qu'est-ce qui vous a conduite?
C'était cette envie aussi de montrer qu'on pouvait tous être un acteur engagé dans la solidarité, de pouvoir offrir comme ça de son temps, de pouvoir offrir de ses talents. Et Benjamin a dû être touché un jour. Et bien, il a fait justement un reportage sur nos maraudes. Et il m'a dit, Hélène, est-ce que ça vous embêterait de faire un livre, de pouvoir me dire d'où est venue la genèse de cette association? Qu'est-ce que vous pourriez... Ben, je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Mais c'est là où j'ai compris qu'en fin de compte, c'est pas facile de se dévoiler. Mmh. Hein, ça fait quelque bien chose. Voilà, même si j'en ai gardé un peu pour moi.
Oui, ça vous conduit à témoigner, on vous pose des questions indiscrètes.
Oui,
voilà.
Oui.
Vous vous dévoilez vraiment.
Mais oui, mais c'est en fin de compte de montrer qu'on n'est jamais seul et qu'il est vivant en nous et qu'il ne demande qu'une chose, c'est ouvrir la porte de notre cœur et de pouvoir apporter cet amour. Je ne vous ai pas parlé des 3 S, servir, sourire, s'aimer, qui sont les valeurs de notre association.
Redites-le doucement.
Oui. Les 3 S, servir, sourire, s'aimer. Je dis souvent, on ne peut pas servir sans sourire, ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème. Et quand vous souriez, vous avez envie d'apporter quelque chose à l'autre. Et tout ça baigne dans l'amour. Donc vous voyez, pour moi, ces mots-là sont d'une grande richesse. Et donc, ce sont devenus les piliers de notre association. Et vous voyez, des fois, je me dis, on a dans la République une devise, liberté, égalité, fraternité, qui sont magnifiques. Mais je pense que c'est une conséquence que si à la base, à la source, on mettait servir, sourire, s'aimer, ben écoutez, on aurait, ça coulerait de source, l'égalité de dignité serait là, cette fraternité qu'en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fraternité partout, ben elle serait là, et cette liberté d'expression de tout, enfin, de tout ce qu'on a besoin, ben on la vivrait pleinement. Voyez.
Bien sûr. Racontez-nous peut-être, Hélène, pour vraiment incarner ces trois piliers.
Ouais.
Vous nous avez raconté l'histoire poignante de cette jeune femme très, très abîmée par la rue. Mmh. Pouvez-vous nous raconter une renaissance, quelqu'un qui est reparti différent, qui est revenu en disant, bah voilà, vous m'avez rasé, coiffé, j'ai eu un rendez-vous, j'ai eu un
alors
boulot.
Alors, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. La première personne qui m'a souhaité les vœux de bonne année, c'était un SDF de Paris qui avait récupéré, parce que mon numéro il est partout,
ouais.
Qui m'avait téléphoné pour me souhaiter la bonne année. J'ai compris que c'était quelqu'un de la rue. Qui était vraiment dans sa... Ça m'a touchée. Et puis un jeune, pareil, deux jours avant la Saint-Valentin, c'était un 12 février, la Saint-Valentin étant le 14, et il me téléphone en me disant « Ouais, quand est-ce que vous allez arriver ?» Je dis « Vous êtes dans quelle ville ?»« Paris. » « Ok, on arrive là dans pas longtemps. » Parce que vous comprenez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Moi, il faut que je trouve l'âme sœur. Eh bien, je l'ai vue. J'ai dit, c'était toi, là? Il dit, oui, il m'a serré dans les bras. Parce qu'il était tout heureux, parce qu'on l'avait fait super beau, quoi. Et ça, c'est magnifique.
Vous arrivez, puisque vous habitez à Toulon, à côté de Toulon. Vous avez des antennes dans 17 villes. Comment, maintenant que ça a pris de l'essence, l'ampleur, pardon, comment vous arrivez à coordonner tout ça, vous retrouver, rester sur le même fil? Comment vous vous débrouillez?
On est très liés par... on a des groupes WhatsApp dans toutes les villes. Et puis, moi, je suis tout le temps en relation avec elle. Et puis, je suis très terrain. Et regardez, ce soir, on va faire la maraude de Paris, Place de la République, où on va retrouver nos 12 coiffeurs. Voilà, quoi.
Ah, c'est extra. Et c'est mixte. Vous avez des coiffeuses, des coiffeurs.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Comment peut-on vous retrouver, Hélène Boiron? D'abord par votre livre, Coiffeuse au grand cœur, aux éditions Salvator, que je recommande, mais très, très chaleureusement. Vous passerez un bon moment. Vous ressortirez différent.
Et en plus, mes droits d'auteur sont totalement reversés à l'association La Coiffure du Cœur. Donc, vous ferez en même temps une bonne action.
Donc, La Coiffure du Cœur. Vous tapez La Coiffure du Cœur, vous tombez sur toutes les informations, le site, la page Facebook. La page Facebook est assez
Instagram,
active.
Coiffure
Instagram.
Du coeur, oui.
Coiffure du Cœur. Vous voyez ça, vous pouvez pas vous tromper.
Non.
Et puis, ben voilà, rejoignez-les. Vous disiez, vous pouvez faire autre chose. Vous savez faire des gâteaux. Eh bien, vous, en fait, dès le départ, Hélène, non seulement vous arriviez avec vos ciseaux, mais aussi quelque chose pour redonner des forces.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a un projet, c'est de pouvoir apporter à chaque personne un petit kit de produits d'hygiène.
Oui.
Parce qu'ils n'ont pas tous l'accès au...
Donc, on peut vous en apporter, il y a des endroits de collecte. Comment vous faites ?
Au moment où on sera à la maraude, ils peuvent arriver aussi avec leurs produits,
c'est ça.
Bien évidemment.
Ouais.
Et puis, on est en train de voir comment être aidé par des mécènes, par des fondateurs, par des fondations, pour pouvoir arriver à faire ces collectes et pour pouvoir les distribuer. Ça a un coût, tout ça. Donc, c'est aussi un appel, justement, aux mécénats de compétences, aux mécènes, aux fondations, s'ils peuvent nous aider, même si nous en avons déjà qui nous aident, comme la Fondation Caritas et Saint-Irénée, qu'on remercie, qui nous font confiance et qui nous aident vraiment.
Coiffure du cœur, chers amis, nous allons remercier Hélène Boiron qui est venue du Sud pour nous apporter tout ce soleil, toute cette espérance. Vous savez, ça donne de l'espérance, votre témoignage. On se dit d'abord, on n'est pas tout seul. Même quand on est parti sur des chemins de traverse, eh bien, le Christ est là, il marche avec nous. Mmh. Et puis, vous avez transformé ça, peut-être par votre tempérament, parce que vous êtes, en un cadeau pour les autres.
Je me suis rendu compte que la coiffure, en effet, ça peut changer des têtes, mais ça peut changer des vies aussi.
Merci beaucoup. Hélène Boiron, merci infiniment.
Merci à vous. Merci Valérie, merci.
Quand Angélique sort de la salle de bain, elle a les cheveux qui reviquent, et je trouve que ça lui va bien. Mais c'est pas naturel, elle a les cheveux lisses, comme de la ficelle, comme une queue de tennis. Alors elle se met des bigoudis, bigoudis, des bigoudis, bigoudis. Ce qui fait que tout le monde lui dit, mais tu ressembles à une brebis. À la tête dure, ça fait 20 ans que ça dure. Elle sourit poliment, elle ne dit pas un mot, mais préfère ce tourment plutôt que se voir sans ses rouleaux. Alors elle se met des bigoudis, bigoudis, des bigoudis, bigoudis. Ce qui fait que tout le monde lui dit, mais tu ressembles à une brebis. Elle continue ses suppliques, elle verra la crinière de la fée des capillaires, qui la soulagera sûrement de cette psychose séborée, lui donnera un cadogan ou une longue perruque bouclée. Elle se mettra plus des bigoudis, bigoudis, des bigoudis, bigoudis. Ce qui fait qu'on lui dira plus, mais tu ressembles à une brebis.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission, nous voici en présence avec grande joie de Laurence Trochu. Bonjour Laurence.
Bonjour Valérie.
Laurence Trochu, vous êtes philosophe, mère de famille nombreuse, députée au Parlement européen et auteure de « Maman, j'ai vu Jésus » aux éditions Via Romana, un livre petit et très percutant, très très percutant. Quand vous retrouvez votre fils de 11 ans à Necker, plongé dans un coma profond à la suite d'un accident, vous gardez espoir, mais vous vous préparez au pire. Lorsqu'il reviendra doucement à la vie, il livrera son expérience de mort imminente, de vie imminente. « Maman, j'ai vu Jésus ». Cette mère raconte son combat au jour le jour aux côtés de son petit prince. Et merci de prendre du temps avec nous pour partager avec nos auditeurs tout ce que vous avez vécu. Vous le partagez dans ce livre quasiment au jour le jour. Alors comment d'abord avez-vous fait pour repartir au jour le jour?
Ben, déjà, vous voyez, ce livre a été écrit à distance de l'accident, puisque c'est 9 ans après. J'ai mis du temps parce que, évidemment, je ravivais des souvenirs qui étaient douloureux. Et je ne voulais pas que ce livre soit un livre thérapie, un livre doudou. Je voulais que ce soit autre chose. Et donc, il fallait que je sois prête pour cela, à aller rechercher dans le passé des souvenirs sans que pour autant rejaillissent des émotions trop pénibles à revivre. Et donc, moi, je dirais, il n'y a pas de secret. Le temps est un allié dans cette circonstance et c'est pour ça que je l'ai pris. Et je me suis basée sur un fil WhatsApp, puisque nous tenions un fil WhatsApp qui nous avait été d'ailleurs suggéré par un ami à qui je confiais l'impossibilité de répondre à tous les messages innombrables qui m'étaient gentiment adressés. Et ce fil était au départ quotidien, puis hebdomadaire, puis mensuel, puis trimestriel, à mesure que finalement le rétablissement était en cours et que les actualités étaient moins brûlantes. Et nous avions archivé ce fil de manière justement à le réutiliser, parce que nous savions que nous aurions à écrire ce livre.
Vous ne saviez pas encore que votre fils le lirait, peut-être.
Exactement.
Ça allait au-delà de vos espérances, j'imagine. Racontez-nous ce qui s'est passé il y a 10 ans. Vous n'étiez pas encore au Parlement européen. Vous étiez conseiller départemental.
J'étais conseiller départemental et porte-parole de François Fillon au moment de l'accident.
Donc vous étiez déjà engagé pour la vie et soudain, c'est là que vous avez été saisi par un choc. Racontez-nous.
Effectivement, un accident, on va dire, bête, souvent comme tous les accidents. Un enfant qui se fait renverser par une voiture juste devant la maison, parce que j'ai entendu le choc. Et je me revois ce soir-là en train de débarrasser la table, etc. Et me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est un bruit qui ne ressemble à rien. C'est pas deux voitures qui se sont tamponnées, c'est pas un sanglier qui aurait heurté un pare-choc. Et simultanément, un autre de nos enfants qui rentre et qui dit... c'est Stan, une voiture, voilà. Et c'est vrai que, d'abord, on a ce réflexe de regarder son enfant qui certes ne bougeait pas, mais qui n'était pas abîmé. Il ne saignait pas, il n'était pas. Et donc je me rassurais en me disant c'est pas grave. Sauf qu'en fait, il était déjà dans un coma d'emblée, alors qu'on qualifie de Glasgow 3 sur l'échelle de la conscience, où Glasgow 3 c'est vraiment très proche de la mort cérébrale. Et on a l'information pas immédiatement, parce que de fait les secours arrivent et qu'il faut attendre plusieurs heures. La réanimation est mise en place immédiatement. Et puis on attend que le médecin du SAMU vienne nous annoncer pronostic vital engagé.
Et à ce moment-là, vous dites dans votre livre « Maman, j'ai vu Jésus », édition Romana, vous dites « J'ai eu l'intuition, j'ai eu même la certitude que ce qui nous arrivait n'était pas pour rien, était pour la plus grande gloire de Dieu ».
C'est pas venu immédiatement.
D'accord, c'est pas à ce moment-là.
C'est pas à ce moment-là, c'est plusieurs jours après. Vous savez, on a, quand on est ébranlé par une telle souffrance, en fait, on est un peu en mode automatique. C'est-à-dire qu'on fait les choses de manière automatique. Il faut se lever, il faut préparer le petit déjeuner, il faut se coiffer, se maquiller, s'occuper des autres enfants, évidemment. Voilà, et on rentre dans un temps qui, en fait, n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans notre vie quotidienne. Un temps qui s'étire, en fait, parce que ce temps est complètement suspendu au coup de téléphone qu'on peut recevoir de l'hôpital qui nous dit « il est sorti du coma » ou « il est mort », vous voyez. Et donc, on a un rapport au temps qui n'a plus rien à voir. Mais je faisais cette expérience, malgré tout, dès le réveil, de ressentir une boule d'angoisse avant même de me rappeler à quoi elle était due. Vous voyez, cette angoisse qui vous habite et que malheureusement beaucoup peuvent connaître pour d'autres raisons et dans d'autres circonstances. Et puis tout à coup, la conscience, hop, qui apparaît, qui dit « Ah oui, au fait, c'est ça ». Voilà. Et un matin où, de fait, je faisais mon lit complètement machinalement, je suis habitée par cette petite phrase « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde », sans bien comprendre pourquoi tout à coup je suis percutée par cela. Et puis, j'ai assez vite compris, pour la gloire de Dieu, je me suis dit, vu l'état dans lequel il est, puisqu'on nous avait dit quand même assez vite, il ne retrouvera jamais la conscience. Il vivra un an et demi dans cet état de coma profond, peut-être végétatif si un jour il arrive à respirer tout seul, mais ce sera tout. Et je me disais, bon voilà, il ne peut pas à vue humaine s'en sortir, donc s'il s'en sort, ce sera vraiment pour manifester la gloire de Dieu qui se révélera dans cette toute-puissance d'amour qui irait jusqu'à son rétablissement. Et pour le salut du monde, j'avais vraiment du mal à comprendre ce que ça pouvait signifier. Je l'ai compris, pour le coup, plusieurs mois plus tard.
C'est très beau, d'ailleurs. En fait, ce livre de Laurence Trochu, chers auditeurs, est un témoignage, évidemment, mais il donne des pistes profondes qui ne peuvent que rejoindre des gens qui, peut-être, traversent des épreuves moins lourdes. Mais vous donnez vraiment des points d'ancrage, et des points d'ancrage qui viennent de beaucoup plus haut que nous. Hein, c'est magnifique. Vous le dites, on fait les choses machinalement, la vie continue, et peut-être tant mieux, d'ailleurs, ainsi. Vous dites, pas une minute à perdre pour aimer plus et pour aimer mieux aussi.
Oui.
Les instants prennent de la densité.
C'est ça.
Vous avez pensé à Anne-Dauphine Julien qui a souvent cette formule, puisqu'on ne peut plus donner de jour à la vie, donnons de la vie
au jour. Oui.
C'est beau, ça aussi. Et je trouve, moi, j'ai beaucoup pensé en vous lisant.
Oui. Alors, c'est vrai pour l'enfant qui est malade ou blessé, mais c'est vrai pour les autres enfants et pour notre couple, etc.
C'est-à-dire rappelons aux auditeurs, vous avez six enfants.
Exactement. Voilà. Et c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit la complémentarité homme-femme dans un couple confronté à cette épreuve, parce que c'est vrai que moi, j'étais complètement tournée vers ma présence auprès de mon fils, tournée vers le soin, tournée vers l'accompagnement de cette vie qui semblait nous échapper. Et mon mari a eu cette sagesse de dire « Oui, mais il y en a 5 autres qui sont bien vivants et qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger non plus, parce que chacun va vivre le drame, évidemment, à sa mesure, à sa manière. » Et on ne peut pas oublier ces autres enfants qui ont aussi besoin de nous. Et donc, la leçon de aimer plus et aimer mieux, elle s'applique aussi aux autres.
Oui. Et d'ailleurs, votre mari, Benoît Trochu, fait une très jolie page d'introduction au livre, un avant-propos. Et c'est tout à fait ce qu'il le dit. Nous avons redécouvert à chaque étape de sa guérison, puisqu'on va avancer, on va dévoiler aux auditeurs, que le bonheur se trouvait dans les joies simples du temps présent, le temps de Dieu, le temps de l'éternité, être ensemble, être les uns pour les autres, être pour Dieu, voilà l'essence de notre existence. On sent vraiment que vous avez fait ce chemin ensemble, vous êtes très pudique là-dessus. De toute façon, ce livre est très pudique, extrêmement. Il est à la fois très puissant et très pudique. Ça, c'est bien vous, je dirais, Laurence Trochu. c'est vraiment magnifique. À un moment donné, donc, les médecins, vous sentez qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à la guérison de Stanislas.
Oui, parce que de fait, le tableau est très noir. Donc, il y a cette évaluation Glasgow 3 sur une échelle de 10. Il y a l'IRM qui révèle les atteintes du tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, c'est ce qui commande les fonctions vitales, hein, la respiration, le cœur, etc. Des lésions qu'on nous dit nombreuses et diffuses. Donc, en gros, on comprend un cerveau bousillé. Et puis, un électroencéphalogramme qui n'est pas plat, mais qui est très, très faible, dont l'activité est très, très faible. Et en fait, c'est dans cette faiblesse, finalement, que s'est nichée l'espérance. Parce que, de fait, pour qu'il y ait mort cérébrale, il aurait fallu que l'électroencéphalogramme soit plat, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je me suis dit... c'est pas fini. Et dans ce petit espace, il y a place pour, malgré tout, un miracle. Parce que le tableau est tellement noir que pour que se rétablissent toutes ces fonctions dont on nous disait qu'elles étaient vraiment perdues, il n'y a pas d'autre choix que l'intervention divine pour la gloire de Dieu.
Et à ce moment-là, lorsque tout semble perdu, vous comprenez que le corps médical... songe au don d'organes de Stanislas.
En fait, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, nous avons des amis médecins qui ne sont pas partie prenante des soins qu'on dispense à Stanislas, mais qui nous disent, étant donné ce qu'on comprend de la situation, préparez-vous doucement à ce que malgré tout les soins soient arrêtés et que donc il y ait une décision à valider parce qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans un acharnement thérapeutique dont on sait qu'il il nourrit finalement lui-même les revendications d'euthanasie. Donc on était sur cette ligne de crête, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est la première chose que je sens. Et la deuxième, c'est que, et en cela nos amis médecins nous ont aidés, c'est que quand un enfant dont les organes sont malgré tout préservés, je comprends que notre malheur peut faire le bonheur d'autres, c'est-à-dire que ces organes peuvent être prélevés, utilisés pour sauver d'autres enfants. Et c'est vrai que on a eu depuis toujours, grâce à nos parents, la chance d'être guidés, d'avoir toutes les balises de la foi catholique sur les enjeux des débats bioéthiques. Mais là, on était à chaud, en fait. Quand il s'agit de prendre des décisions ou de s'apprêter, d'envisager à prendre des décisions pour son propre enfant, évidemment...
Vous n'étiez pas prête, vous dites.
On n'est jamais prête
à cette question.
Voilà, on n'est jamais prête.
Je comprends.
Mais de fait, c'est quand même une exhortation. Une exhortation à se former. Parce que même si on n'est jamais prêt quand on est en situation critique, le temps qu'on aura pris en amont pour poser les jalons, pour poser les repères, pour les comprendre, fait que si toutefois un jour il y a une décision à prendre, eh bien, on est un petit peu plus prêt quand même. Voilà.
Et d'ailleurs, la question de l'acharnement thérapeutique va se poser une nouvelle fois.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en reparler ? J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Vous l'expliquez très bien parce que aussi vous êtes plongé par vos fonctions de député européen, parce que vous travaillez en faveur de la vie depuis si longtemps. Ce sont des enjeux que vous maîtrisez. Expliquez-nous ce qui va se passer une deuxième fois. Donc,
oui, alors ouais. En fait, vous savez, je quittais l'hôpital vers 20h le soir. Je rentrais avec mon téléphone portable que je ne mettais pas en mode avion la nuit. Et voilà, parce que on savait qu'à tout moment, finalement, le téléphone pouvait sonner pour annoncer, voilà, une issue favorable ou défavorable. Et je dis à Stanislas un soir précisément parce que je percevais que les médecins se posaient des questions sur le maintien de la réanimation. Je lui dis, écoute, si tu sais que tu dois mourir, bah en fait, vas-y, va rejoindre Jésus et ne nous laisse pas dans cette situation où nous aurions à valider une décision qui est terrible, parce que je pense qu'on ne sait jamais si elle a été bonne ou pas, et même si elle est fondée sur des critères médicaux objectifs, voilà, que des parents soient obligés finalement de vivre ça, c'est complètement déchirant. Et le lendemain matin, quand j'arrive, je suis accueillie à la porte de la réanimation par le médecin réanimateur, ce qui n'arrivait pas en fait. Et je me dis, bon, bah voilà, elle est là pour me dire que c'est fini, elle n'a pas voulu me le dire au téléphone. Donc... Et puis elle m'accompagne vers la chambre, et finalement pour me préparer à une surprise qui est celle d'une extubation de Stanislas, probablement en toussant, puisqu'il était paralysé, donc il ne pouvait pas lui-même retirer les appareils de respiration. Et elle me dit, voilà, il tient, il respire tout seul. Voilà. Et au bout de, malgré tout, peut-être 12 heures, quelque chose comme ça, il a été rebranché, il a été réintubé parce qu'il était fatigué de respirer de manière autonome. Et donc, à ce médecin réanimateur qui, quelques jours avant, nous avait dit, de toute façon, il ne retrouvera jamais la conscience, au mieux, il respirera tout seul, ben, je lui dis, faites finalement, docteur, est-ce que ce n'est pas vous qui êtes dans l'acharnement thérapeutique ? Parce que, finalement, là, vous vous obstinez. Donc, je portais la contradiction et je voyais que ce médecin n'avait pas la réponse.
Non.
Du strict point de vue médical, elle n'avait pas la réponse parce qu'il y avait aussi ce critère temps qu'elle voulait maintenir. Mais c'est vrai qu'en lui posant la question, c'était une manière de m'interroger moi-même et de me dire finalement qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acharnement thérapeutique, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'obstination, qu'est-ce qui est de l'ordre du raisonnable ou du déraisonnable. Évidemment, toutes ces questions-là nous habitent. On n'aura finalement pas eu besoin d'y répondre.
Pas eu besoin d'y répondre. Et c'est quelque chose dont vous avez pu reparler avec eux avec l'équipe médicale un petit peu ou...
Oui, parce que Stanislas a manifesté la volonté, une fois rétabli, de retourner en fait à l'hôpital, saluer les médecins qui avaient pris soin de lui et les infirmières qui avaient pris soin de lui. Et c'était assez extraordinaire d'ailleurs parce que c'était de fait deux réanimateurs hein, par patient. Donc l'un d'eux était là et il a revu du coup un patient qui avait réappris à marcher, à parler et qui avait donc dépassé le pronostic, déjoué le pronostic. Et il lui a montré non pas la chambre dans laquelle il était parce qu'elle était à nouveau occupée, mais une chambre semblable, similaire. Et quand on a quitté cette chambre, il a dit à Stanislas, tu vas y retourner et tu vas fermer la porte derrière toi. Parce que c'est de fait une partie de ta vie qui s'est déroulée ici. Mais maintenant, la vie, elle est devant toi. Et donc, c'est devant qu'il faut regarder. Et ce geste, finalement, qui consistait à fermer la porte, avait une valeur symbolique pour lui et pour moi aussi, ça c'est certain. Et j'ai senti là aussi l'expérience du médecin qui se réjouissait avec nous de cette issue finalement
heureuse. Combien de temps était passé, Laurence Trochu, entre ces longs mois où il ne s'est pas passé grand-chose et puis le progrès? Racontez-nous aussi peut-être ce tout premier grand progrès, oui. Vous le racontez très bien. Et dites-nous, donnez-nous une échelle de temps.
Alors, l'accident, c'était le 27 février.
En 2017.
Et le 19 mars, donc jour de Saint-Joseph, qui est le deuxième Saint-Patron de notre fils, au terme d'ailleurs d'une neuvaine à Saint-Joseph qui avait été vécue vraiment par ce fil WhatsApp, au-delà même du fil, puisque la prière s'est étendue dans le monde entier. Nous étions, mon mari et moi, à son chevet. Je sors déjeuner et en revenant, je vois mon mari, entre guillemets, discuter avec Stanislas d'une manière assez étonnante par des claquements de doigts. C'est-à-dire qu'il y avait un geste que les médecins faisaient fréquemment devant les yeux de Stanislas pour voir si les pupilles se dilatent, etc. Et puis il ne se passait de fait rien. Et mon mari, tentant le même geste, a eu une réponse de Stanislas d'un claquement de doigts, et quand il en faisait deux, il répondait avec deux, et trois avec trois, etc. Et là, je comprends qu'il y a une interaction et que donc, il y a non plus un coma profond, non plus un état végétatif, mais finalement, une amorce d'état dit aussi relationnel, c'est-à-dire une communication minimale et donc des phases finalement de conscience. Donc ces phases ont été progressives, il y avait des jours avec et des jours sans. Mais il y avait ce 19 mars où on a compris que quelque chose s'était passé et que les médecins, évidemment, ne croyaient pas parce que c'était, encore une fois, au-delà de ce qu'ils avaient envisagé. Et puis une petite malice de Stanislas qui ne le faisait pas sur commande quand l'ordre venait des médecins. Au point qu'un médecin a dû se cacher, un jeune interne s'était caché pour en être finalement le témoin indirect.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais, ça c'est merveilleux. Vous avez dû être à la fois très heureux et puis en même temps, je ne sais pas quel était votre
l'inconnu.
État... Ouais,
l'inconnu, parce que finalement, c'était une poupée de chiffon quand même, vous voyez. Et là, on se dit, sa vie visiblement résiste, mais que va-t-elle être comment va-t-elle être possible à quoi ça va ressembler finalement?
Vous dites 19 mars, les deux yeux ouverts, stupéfaction, j'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre, j'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, il est revenu. Mmh. Il est revenu. Mais un nouveau corps cassé, fragile, qui n'obéit pas comme celui d'avant. Quel travail pour Stanislas? Donc ça, c'est quelques mois plus tard.
C'est deux ans et demi d'hôpital, en fait.
Deux ans et demi d'hôpital.
Alors avec des phases à la fin d'hôpital de jour, où il pouvait rentrer, mais une auxiliaire de vie à la maison, matin et soir, pour les soins. Donc c'est quand même très lourd. Hein. C'est le lit médicalisé à la maison, c'est le monte-escalier, c'est le fauteuil, puis le déambulateur. Donc c'est malgré tout une vie qui est au ralenti Et ce qui m'a vraiment demandé un énorme effort, moi qui suis de nature assez impatiente, c'est de vivre avec ce rythme du handicap qui est toujours là aujourd'hui, hein, et même si c'est moins prégnant, mais de caler mon rythme et mon rapport au temps. Et vous voyez, je disais au tout début ce temps qui était suspendu et étiré. Et là, c'était un temps qui était encore autre chose, qui était prendre le temps, finalement, de le laisser faire. Parce qu'évidemment, quand il a fallu, par exemple, qu'il apprenne à faire ses lacets, bien sûr, c'était plus simple pour moi de les faire à sa place. Mais sauf que je devais le laisser prendre le temps de faire ses lacets. Et ça a été la même chose pour tout, pour apprendre à se couper les ongles, à se brosser les dents, à s'habiller, à mettre un bouton. Et je pense que les mamans qui ont des enfants, et les mamans et les papas qui ont des enfants handicapés, comprennent d'emblée ce dont je parle, parce que le handicap nous met dans cette dimension temporelle qui n'a rien à voir avec nos vies qui vont à 100 à l'heure.
Et sa patience à lui, Stanislas, montrait de l'impatience ? Ce corps au ralenti l'énervait ou pas ?
Pas tant que ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il me disait lui-même qu'il y a des grâces qui ne se voient pas. Parce que de fait, toutes les grâces visibles ont été celles d'un rétablissement physique. Il y a ces grâces invisibles qui ont été celles d'une acceptation d'un... Moi, j'aime bien le mot de consentement. D'un consentement, j'ai presque envie de dire joyeux, à ce handicap qui bouleverse sa vie, qui forcément limite ses choix de vie aussi, limite ses capacités. Et il y a bien eu évidemment des moments d'énervement et d'agacement, mais paradoxalement, pas tant que ça.
Pas tant que ça. Et ses frères et sœurs, est-ce que la maison a tourné plus au ralenti ? J'essaye d'imaginer une famille... Stanislas, c'est le combienième ?
Quatrième.
Quatrième. Donc ça tournait, il y a une petite sœur qui dit à un moment, il fait quand même handicapé.
Oui,
vous racontez
oui,
ça.
Oui, exactement.
On imagine bien, c'est charmant.
C'est charmant, elle avait 6 ans. Et ouais. C'est vrai que ça correspondait à un moment où Stanislas se raidissait parce qu'il y a eu toute une phase de douleur neurologique qui était très pénible, qui était une véritable... Oui, un déchirement de le voir souffrir comme ça, avec des membres qui se raidissaient. Et c'est là qu'elle a dit, oui, il fait handicapé au sens où il correspond à ce qu'on voit du handicap, physique. Et donc, c'était aussi le fait pour les enfants de réapprendre à vivre avec un frère qui n'était pas celui qu'ils avaient connu. Alors, pour les plus jeunes, évidemment, qui ont des souvenirs, le dernier avait 3 ans, aujourd'hui, il dit, moi, je n'ai pas de souvenir de lui avant l'accident. Ouais. Mais pour les plus grands, bien évidemment, il y avait des souvenirs. Et donc, que devient la relation avec ce frère qu'il faut apprivoiser,
ménager,
comprendre aussi, parce que il y a du handicap visible, mais il y a aussi les troubles de la mémoire qui entraînent des troubles d'organisation et de planification. Et ça ne se voit pas au premier coup d'œil.
J'ai beaucoup, beaucoup souri, même ri, à l'anecdote que vous racontez d'un de ses frères aînés qui revient d'un week-end scout et poussant le fauteuil roulant, lui raconte son week-end scout, on imagine. Il dit, de toute façon, je te raconte ça, mais je ne sais même pas si tu m'entends, si tu me comprends. Et à ce moment-là, racontez-nous.
Ouais, à ce moment-là, il lève péniblement les doigts pour faire le salut louveteau, puisqu'il était, Stanislas était saisonnier à ce moment-là. Et en fait, c'est la deuxième, après le 19 mars de Saint-Joseph, ça c'est le 3 avril, c'est la deuxième date mémorable, puisque pour le coup, nous terminions une neuvaine au professeur Lejeune, dont c'était la fête le 3 avril, et où le médecin, témoin de cela, dit, on peut considérer qu'il est en étape aussi relationnelle, alors qu'on nous avait dit qu'il ne retrouverait jamais la conscience.
Ah ouais, c'est magnifique ce que vous racontez. Je trouve que ça donne une confiance immense, immense, immense. Et cette confiance, elle est renforcée. Le titre de votre livre, « Maman, j'ai vu Jésus », Laurence Trochu, « Maman, j'ai vu Jésus », ce sont les mots de Stanislas qui, plus tard, vous a raconté une expérience, on va dire, de mort imminente, mais lui dit vie imminente.
De vie imminente, exactement.
Et racontez-nous, c'est très, très poignant.
En fait, Stanislas donc était hospitalisé à temps complet, on va dire, mais commençait à rentrer à la maison vers la fin du mois de mai, début du mois de juin. Le temps d'une journée, il arrivait en ambulance vers 10h, il repartait à 17h. C'était d'ailleurs des journées qui étaient à la fois des grands moments de bonheur parce qu'il reprenait pied dans la vie du quotidien, de son univers, de la maison, mais d'emblée avec voilà, ça ne durera que quelques heures et il faudra repartir et ce sera les larmes et les sanglots. Ouais. Et ce jour de Pentecôte, voilà, c'est pour ça que je suis très heureuse que vous m'invitiez.
Voilà, nous sommes le lundi de Pentecôte.
Exactement à ce moment-là. Le jour de Pentecôte, il rentre et puis ses frères s'étaient mis d'accord pour lui montrer les extraits d'un match de foot qui avait eu lieu la veille en disant on va entraîner sa mémoire pour qu'il se souvienne de combien de buts ont été marqués, par qui, etc. Il n'y avait rien qui rentrait. Et puis il dit non, mais moi j'ai quelque chose à vous dire. Et alors, déjà, la phrase en elle-même était surprenante parce qu'à ce stade-là, donc, il avait récupéré la parole, puisque donc, quand il est sorti du coma, il était paralysé, presque aveugle et mutique. Donc, il avait récupéré la parole, mais simplement pour répondre à des questions très simples, par oui, par non, sujet, verbe, complément, vous voyez. Et là, pendant 40 minutes, de manière ininterrompue et fluide, même si le débit était lent, il a raconté... avoir vu Jésus, avoir vu l'enfer aussi, aperçu l'enfer, avoir retrouvé au ciel son arrière-grand-mère, son arrière-grand-père, voilà, et puis avoir expérimenté en fait ce qu'est l'amour à l'état pur, c'est-à-dire qu'il a cette phrase magnifique qui est de dire voir Jésus, c'est toucher l'amour infini. Et c'est tout l'objet de la préface de l'abbé Boulle qui, justement, développe ce que signifie toucher l'amour infini. Et donc, évidemment, ces paroles qui arrivent, encore une fois, dans un contexte où il n'était pas capable d'aller au-delà d'une simple phrase, voilà, le jour de Pentecôte, on y voit la marque de l'Esprit-Saint qui lui donne de parler, en fait, et de dire le ciel.
Et donc, il raconte qu'il a rencontré, il a revu son arrière-grand-mère, grand-maman. J'ai vu grand-maman. Elle m'a présenté grand-papa.
Oui, parce que grand-papa, en l'occurrence,
il ne l'avait pas connu. Mais c'est incroyable.
Et Stanislas n'avait que 5 ans au moment de la mort de sa grand-maman. Et c'est vrai que la question qu'on se pose tous, finalement, c'est... À quoi ressemblerons-nous au ciel? Voilà.
Ça répond à une petite question qu'on se pose beaucoup. Est-ce que les couples seront toujours ensemble, etc.? Grand-maman m'a présenté grand-papa. Moi, ça m'a bouleversée, ça.
Oui, oui.
Et vos places, papa, maman, mes frères et sœurs, sont prêtes, je les ai vues.
Ben, en fait, il y avait ce langage quasi biblique dans la manière
c'est
dont
ça,
il
un
s'exprimait.
Un peu prophétique.
Voilà. Ouais. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Enfin, ouais, je veux dire, il n'a rien inventé. Mais c'est vrai que ça nous a donné une envie du ciel qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Parce que Stanislas nous a dit, est-ce que plus tard, hein, voilà, il nous a dit, ce que je vous ai raconté, est-ce que ça va augmenter votre foi? Et mon mari lui a répondu très justement, non, ça n'est pas de cet ordre-là. En revanche, ça nous a vraiment donné envie d'aller au ciel. Mmh. On sait qu'en fait, notre place est au ciel.
Après, notre cité se trouve dans les cieux.
Exactement. Maintenant, il faut s'y atteler, il faut s'y préparer. Mmh. Évidemment que dans le cœur de Dieu, il y a place pour chacune des créatures au ciel. Mais maintenant, il faut la mériter, cette place.
C'est très touchant, ces expériences de vie imminente, on va reprendre ces mots, qui sont très précises, avec des images précises, et qui sont racontées avec précision.
Oui.
Vous voyez, j'ai lu les mots de Stan que vous avez transcrits d'ailleurs.
Oui, exactement, parce que quand il a commencé à raconter ça, on s'est dit, il se passe quelque chose. Voilà, donc on a consigné par écrit, de manière à ne pas déformer, de manière à rester vraiment fidèle au témoignage tel qu'il était livré.
Et le lire, c'est avoir des images très précises et qui restent. Je trouve que là, il y a quelque chose, il y a une fulgurance.
Oui.
Est-ce qu'il est amené, Stanislas, puisqu'aujourd'hui, il a quel âge ? Il
21 ans.
Stanislas a eu son bac l'année dernière avec mention.
Exactement, bravo. Mention bien.
Bravo à lui. Est-ce qu'il est amené à témoigner devant des groupes de jeunes, etc. Est-ce qu'on lui demande ? Est-ce qu'il veut le faire ?
Dites-nous. En fait, au départ, il était tout feu, tout flamme. Et puis, comme tout trauma crânien, il souffrait de ce qu'on appelle la désinhibition, c'est-à-dire l'absence de filtre, le fait qu'il disait tout ce qui lui passait par la tête, pour le meilleur et pour le pire. Parfois, ça donnait lieu à des situations un peu cocasses. Mais en l'occurrence, il avait envie d'en parler à tout le monde. Et on lui avait appris quand même qu'il y avait une réserve nécessaire dans certains contextes. Et je sais que, par exemple, à l'hôpital public, évidemment, ça dérangeait quand même les infirmières qui disaient « Moi, je suis tenue à la réserve, je ne peux pas me prononcer là-dessus, etc. » Donc, on lui avait expliqué qu'il ne fallait pas non plus qu'il mette en difficulté les personnes à qui il s'adressait. Et petit à petit, quand il savait qu'on allait voir de nouvelles personnes, il disait « Est-ce que je peux raconter ?» Donc, il avait retrouvé petit à petit les codes et les réflexes. Mais bien évidemment que ça a changé sa vie et que ce qu'il a compris de cette expérience, c'est deux choses. C'est que s'il est revenu, c'est précisément pour en parler, pour dire en fait. Mais quand je dis en parler, c'est dans la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est au fil de l'eau. C'est pas de manière spectaculaire ou de manière... voilà, parce que moi, je ne voulais pas, et nous ne voulions pas que sa vie tourne uniquement autour de cela, parce qu'il dit lui-même avoir une nostalgie du ciel. Il le dit d'ailleurs dans son témoignage, « J'aurais préféré rester là-bas. Je suis contente de vous avoir retrouvé. » Donc, ben, voilà, une fois de retour dans la vie, il faut que cette nouvelle vie, évidemment, soit enrichie par cette parenthèse céleste, mais qu'il garde bien les pieds sur terre. Et puis la deuxième chose qu'il retient, c'est la messe. C'est-à-dire qu'il nous a dit, la messe, c'est sur terre le plus beau moment.
Et ça imprègne toute la famille, ses frères et sœurs autour de lui.
Ben, c'est la même chose, on ne va plus à la messe de la même manière.
Ouais,
malheureusement, de temps en temps, si, parce qu'on est faible, parce que voilà, la vie reprend parfois avec son rythme, mais en tout cas, la grande leçon que moi je retiens aussi, c'est celle-là.
Et vous étiez déjà très engagé en faveur de la vie. Si vous vous êtes engagé en politique, Laurence Trochu, c'est essentiellement au départ et puis encore aujourd'hui pour ces questions-là. Vous avez été frappé par cette expérience très très forte. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça fortifie ? En quoi ça fortifie ? Comment ? Pourquoi ? Dites-nous ce que ça a changé en vous, la femme politique.
D'abord, j'ai découvert le handicap. À l'époque, je siégeais au conseil départemental dans la commission des affaires familiales et sociales. Donc, c'est la commission qui prend en charge la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. J'avais déjà évidemment une appétence pour ce secteur. Mais évidemment, quand on ne vit pas soi-même le handicap au quotidien, on ne réalise pas ce que ça signifie concrètement. Donc, ça a resserré des liens aussi avec des amis qui ont eux-mêmes des enfants handicapés. Je pense à Maître Loïc Lerat, qui est venu ici d'ailleurs dans une émission de Radio Courtoisie évoquer la situation de son Vianney. Donc, on rentre dans une fraternité nouvelle qui est celle des parents avec des enfants qui ont une plus grande fragilité que d'autres, une vulnérabilité et cette découverte aussi de la force qui se manifeste dans la faiblesse. Ça, c'est des cœurs qui s'élargissent alors qu'on ne s'en imaginait pas capable.
Ah, c'est beau.
Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été assez bouleversant pour moi. Et ensuite, dans mon engagement politique, évidemment, moi j'ai toujours considéré que la destruction de la société commençait par la destruction de la vie. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai été très très frappée un jour où je rentrais d'une marche pour la vie, où je devais écrire un article, une tribune sur ce sujet. J'étais tombée sur le livre du docteur Pierre Simon, de la vie avant toute chose. Docteur Pierre Simon, donc, qui était un des cofondateurs du planning familial, grand maître de la Grande Loge de France, et qui explique dans cet ouvrage daté de 1978 pourquoi il a fait le choix de la médecine, plus particulièrement de la gynécologie, pour travailler, dit-il, sur le viscéral et à partir de là, changer la société en changeant le rapport à la vie par la contraception, par l'avortement, par la PMA sans père, puisqu'il termine son livre, qui date encore une fois de 1978, par cet objectif de la PMA sans père. Le livre a été quasiment immédiatement retiré de la vente, on ne le trouve maintenant que sous PDF, parce que finalement, il dévoilait dans ce livre ce qui était le programme de bioéthique qu'on a malheureusement vu se dérouler pas à pas sous nos yeux et qui s'est considérablement accéléré depuis une dizaine d'années. Et là, j'ai compris finalement que le projet politique des déconstructeurs, mais moi je dis même des destructeurs, en fait, ça a été la cellule familiale. Et on était peu de temps après 2013. La famille a été détruite sur le plan économique, sur le plan fiscal et dans la nature même de la définition de la famille avec l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Donc en fait... Il y a quelque chose de ce noyau. On dit toujours la famille est le noyau au fondement de la société. C'est de l'ordre du pré-politique. Mais c'est pas pour rien finalement que les attaques se concentrent sur la famille et sur la vie, que ce soit à son commencement ou comme on le voit depuis les débats sur l'euthanasie en France, sur la fin de vie.
Alors, je vous propose quelque chose. Pierre Simon disait « La vie, ce matériau qui se gère » dans ce même livre « De la vie avant toute
Exactement.
Chose ». Le matériau qui se gère. Alors, je vous propose un antidote. C'est que vous nous lisiez, si vous voulez bien, Laurence Trochu, ces mots que vous transcrivez dans votre livre « Maman, j'ai vu Jésus ». Dites-nous.
Ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux que j'emprunte à Mère Teresa. « La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la.
Eh bien, c'est votre programme. C'est
Exactement.
Votre si beau programme. C'est beau que vous l'ayez mise in extenso. Parfois, on a des extraits de Mère Teresa. D'ailleurs, c'est très beau. Hein, mais là, on l'a in extenso. C'est vraiment un tout. Et j'ai aussi été très touchée des références littéraires sur lesquelles vous vous appuyez. Je disais en introduction, vous avez accompagné votre petit prince.
Oui.
Mais vous l'avez accompagné avec le petit prince.
Oui, parce que j'ai eu, en rentrant dans la salle de réanimation, cette image du petit prince qui est dans toutes les couvertures, dans toutes les illustrations de ce petit prince tout blond avec les cheveux ébouriffés. Et mon fils avait, évidemment, comme il avait été opéré d'un hématome extradural, il était enturbanné, mais s'échappait de ce turban des mèches blondes un peu folles. Et puis, mine de rien, dans le coma, les cheveux poussent. Donc, à la fin, il avait quand même une bonne tignasse. Et tout de suite, cette image du petit prince m'a saisie. Et c'est vrai que dans ce livre, basé donc sur les fils WhatsApp que nous tenions, il y a deux nourritures. Il y a la nourriture céleste du temps du carême, puisque l'accident a eu lieu la veille du Mardi Gras, et que nous avons donc vécu ce carême, on a porté la croix du début à la fin, et on se nourrissait de la parole de Dieu chaque jour. Et puis il y avait quelques références littéraires, ce petit prince qui s'est imposé à moi et que j'ai relu, il y a eu François Cheng aussi, une amie qui m'a offert les méditations sur la mort. Et puis, à travers toutes les interrogations bioéthiques sur finalement qu'est-ce que c'est que la vie, ce magnifique texte de l'âme de François Cheng. Voilà, qui servait aussi finalement de fil conducteur dans les discussions avec les médecins eux-mêmes.
Et puis l'Odyssée que vous lui avez relu.
Et l'Odyssée, parce qu'il était en sixième et que, comme tout élève de sixième, il lisait l'Odyssée, alors dans sa version la plus courte. Mais quand, avant de retrouver la parole, il communiquait par des gestes pour dire oui ou non, notamment. Eh bien, je lui ai proposé de relire ce texte abrégé. Et chaque jour, je venais à l'hôpital et on lisait quelques chapitres. Et je sentais que ça le réjouissait. Je lui disais, mais tu vois, il faut que tu rentres toi aussi, il faut que tu reviennes à la maison. Je ne sais pas par quelle sirène tu vas être entraîné, je ne sais pas par quel vent tu vas être porté, mais on va t'aider à construire le radeau.
Et lorsqu'il est ressorti, lorsqu'il a revu le corps médical, etc., en vous entendant, je me dis finalement ce petit garçon a été sollicité avec beaucoup d'amour, beaucoup de présence, de justesse. D'autres n'ont peut-être pas cet entourage si porteur, d'autres... Est-ce que c'est ça qui l'a aidé? Comment l'expliquent-ils, les médecins? Parce que vous parliez de toutes ces zones très altérées qui finalement se sont libérées.
Oui, en fait, d'abord, moi, je rends grâce aussi parce qu'on a eu tout cet accompagnement spirituel, encore une fois, par ces chaînes de prières dans le monde entier. Mais il y a eu aussi tout l'accompagnement humain. C'est-à-dire que pendant quelques mois, en fait, j'étais tellement absorbée par la vie à l'hôpital, surtout que l'hôpital, ensuite, a été un peu loin, dans le Val-de-Marne. Donc, c'était une heure et demie de route le matin, une heure et demie de route le soir. Et j'arrivais et j'avais des paniers repas pour toute la famille. Préparé,
tout prêt.
Avec un doodle qui s'était mis en place, des mamans parfois que je ne connaissais même pas, vous voyez, qui étaient rentrées dans cette boucle. Donc on a été très accompagnés. On a été très bien guidés sur le plan médical aussi, précisément pour faire le choix de l'hôpital le plus adapté à tel ou tel moment de son rétablissement. Et c'est vrai que peu de temps après, vous savez, on a eu ce qu'il était convenu d'appeler l'affaire Lambert, la mort programmée de Vincent Lambert. Et je réalisais à quel point nous avions eu de la chance aussi d'être éclairés pour faire les bons choix médicaux, les bons choix thérapeutiques, là où Vincent Lambert, finalement, n'avait pas été placé dans les bonnes structures, parce que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Il était de fait en état post-relationnel, donc dans un état qui était bien meilleur que celui de notre fils au départ. Voyez.
Vous avez dû vivre tout ça dans votre chair, puisqu'on l'a laissé mourir de faim et de soif, Vincent Lambert. J'imagine que vous saviez ce que ça voulait dire.
Oui, et puis surtout ce qui m'a frappée, c'est quand j'ai expliqué à Stanislas que voilà, la vie de Vincent Lambert allait être arrêté arbitrairement. Et Stanislas a dit, s'ils font mourir Vincent Lambert, on mourra tous. Et ça m'a frappée, parce que quand je vois dans les débats autour de l'euthanasie que finalement, c'est plus du tout une loi dite d'exception, mais que dans tous les pays qui ont libéralisé, et je l'ai vu encore il y a deux semaines au Parlement européen, j'ai fait venir l'avocate espagnole de la jeune Noelia qui a été euthanasiée pour détresse psychologique. Quand on voit le Canada, quand on voit la Belgique, vous savez, ça commence toujours par des bonnes intentions. Et puis ça se termine dans la pire des horreurs qu'on n'a même pas imaginées. Et il y a quelque chose de prémonitoire, en fait, dans cette phrase qu'il a dite. S'il tue Vincent, ils nous tueront tous. Demain, c'est effectivement une personne qui coûte trop cher, en temps, en argent. Enfin, c'est sans fin, finalement.
C'est quelqu'un qui ne se sent plus bien ici, tout
simplement.
Noelia, c'est quand même, c'est venu très vite. Parce que l'Espagne est en avance sur nous, sur cette question.
Oui, exactement. Et puis après, vous savez, toujours moi, la question que je me pose à nous et que nous devons nous poser, nous les bien portants, c'est pour que quelqu'un en arrive à penser que sa vie n'a plus de valeur, que lit cette personne dans nos propres yeux, à nous les bien portants? Et cette expérience-là, je l'ai faite aussi, je le dis humblement, mais quand, par exemple, je manifeste de l'agacement ou de l'énervement parce que mon fils ne va pas assez vite ou n'y arrive pas, ou voilà, il suffit qu'il me regarde pour que je comprenne que mon attitude ou mon regard ou ma parole était déplacée. Et là, je me prends une claque. Parce que, de fait, c'est la manière dont nous vivons et nous accompagnons les personnes vulnérables voilà, qui leur permet de mesurer le prix qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas.
Ça me fait penser à Caroline Brandicourt, qui est une amie, qui témoigne beaucoup. Elle a une maladie neurodégénérative et elle témoigne très souvent dans le combat pour la vie. Et elle a dit devant le Parlement, la dernière fois qu'elle est venue à Paris pour témoigner, elle a dit « Je n'ai pas besoin de piqûres, j'ai besoin d'assistance ». Oui, j'ai besoin d'aide.
C'est ça.
Voilà, c'est tellement plus facile d'une certaine manière. Donc en effet, ça nous renvoie tous à nos responsabilités.
Exactement.
Merci infiniment, Laurence Trochu. Je suis très très heureuse de cet échange avec vous. Merci d'avoir pris le temps.
Merci de votre invitation.
C'est une grande joie pour Radio Courtoisie d'avoir pu vous entendre parler à la fois de votre expérience de mère et expérience de femme engagée en politique. Tout cela étant très cohérent.
Merci.
Maman, j'ai vu Jésus, Laurence Trochu, préface du chanoine Marc Boule, en effet une très belle préface. Un avant-propos de votre mari Benoît, qui est magnifique aussi, chez Via Romana. Chers amis, procurez-vous ce livre, lisez-le tout par petites gouttes aussi, vous avez été très pudique, très progressive. C'est un vrai petit bijou. Merci infiniment et bon lundi de Pentecôte à tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Transmission, dirigé par Valérie Daubigny, émission préenregistrée le 12 mai 2026 et diffusée pour la première fois le lundi 25 mai 2026, de midi à 13h30, et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.